Grandir à l'ombre des écrans, c'est le thème de la conférence animée par Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Cette soirée a lieu le jeudi 13 octobre à 20h30 au Casino sur les lieux. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien. Et vous?
Très bien également, merci beaucoup. Grandir à l'ombre des écrans. On peut entendre qu'il faut absolument interdire les écrans à la petite enfance. Est-ce le cas?
Alors, c'est vraiment la première fois dans l'histoire du monde qu'une technologie est finalement mieux maîtrisée par les enfants que par les adultes. Donc on se pose des questions, hein. D'abord c'est intuitif. Et puis, les neurosciences nous disent que l'utilisation des écrans active le circuit du plaisir dans le cerveau. Donc pour les enfants qui n'ont pas encore cette régulation bien installée avant on va dire 5-6 ans, eh bien utiliser un écran qui vous dit « essaye encore » et qui utilise toute une technologie qui l'engage à approfondir, aller plus avant dans son jeu ou dans sa vidéo, eh bien ça l'empêche en fait d'intervenir par lui-même et d'être acteur de cette technologie-là. Donc on comprend pourquoi les enfants sont très très habiles avec les écrans et évidemment on se pose la question de savoir si la surexposition elle a des effets sur le développement de l'enfant. Alors moi j'ai cette chance de vivre à Lisieux et d'apprécier la vie dans un environnement naturel et on fait vraiment la distinction entre les deux, entre cette surexposition qui est massive, hein, qui existe absolument partout dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau économique, et en même temps, cette vie qui nous est offerte. Hein, on a beaucoup de chance à Lisieux d'avoir la nature à portée de main, la mer.
Ce que vous nous dites, Nathalie, c'est qu'il y a une différence dans le comportement des enfants sur Lisieux ou les enfants des villes.
Oui, alors j'ai vu quand même dans le questionnaire qui a été rempli par 159 parents de comportement d'utilisation des écrans dans leur famille et chez des enfants de 3 à 8 ans. Donc j'ai bien regardé les résultats et ce que je vois, c'est qu'il y a un peu moins de surexposition à Lisieux. Il y a un facteur de protection vraiment sur notre île, alors que dans les grandes villes ou dans des lieux où il y a aussi plus de précarité, eh bien là on voit une explosion massive des écrans parce que dans cette balance entre un environnement favorable et un environnement un peu toxique, hein, où il y a du bruit en permanence, etc., on a plus tendance à s'isoler derrière un écran. Or, les neurosciences nous disent un bébé, un enfant, il se développe grâce à ses cinq sens. S'il touche pas, s'il entend pas, s'il regarde pas quelque chose au loin, s'il sent pas avec des odeurs, eh bien ça c'est la voie, c'est les cinq voies d'entrée de la connaissance. Un bébé, s'il n'est pas acteur en fait de ses expériences, eh bien on a l'impression qu'il va apprendre au travers d'un écran parce qu'on va dire ça c'est une pomme rouge, mais en réalité s'il a pas le poids de la pomme, s'il la sent pas, s'il la goûte pas, s'il ne la regarde pas, et ça ne va pas s'engrammer dans le cerveau, ça ne va pas s'intégrer, et ça va être une connaissance à courte échelle, en fait. Ça ne va pas rester dans sa mémoire, et ça ne va pas lui permettre de faire des apprentissages. Donc ça, il y a 719 études scientifiques internationales qui nous le disent. Un enfant, il a besoin d'apprendre le monde par ses cinq sens, en particulier un bébé. Or, il y a ce phénomène-là de la surexposition et il faut regarder, en fait, il y a des variables. Hein. Il faut regarder les âges des enfants, il faut regarder la fréquence d'exposition, il faut regarder l'intensité de l'exposition. Il faut voir aussi sur quel support les enfants regardent des vidéos, des jeux. Ça, c'est les choses qui sont préférées chez les enfants. Et quand on les interroge, eh bien 80% des enfants disent qu'ils préfèrent la télé parce que c'est l'écran qu'ils partagent avec la famille. Donc ce dont on se rend compte, c'est que, un, ils apprennent par leurs cinq sens, et ça c'est des connaissances qui sont acquises pour toujours, et puis ils ont besoin d'être accompagnés. Et là, on se pose la question évidemment de est-ce qu'un enfant regarde seul l'écran? Quel écran? L'intensité, la fréquence? Quel est son âge? Et là, il y a des différences frappantes évidemment entre les enfants. Et je me rends compte dans le questionnaire là qu'il y a beaucoup, il y a quand même 12% d'enfants qui ont une télé dans leur chambre. Et ça veut dire qu'ils regardent a priori seuls. Et bon, on ne sait pas bien ce qu'il regarde. Et on voit maintenant avec les neurosciences comment ça résonne dans le cerveau, comment ça vient s'intégrer aussi le stress toxique, des choses qui sont pas, que les enfants peuvent pas réguler tout seuls. Ils reçoivent des images qui parfois sont pas du tout, sont pas du tout adaptées à leur âge, à leur culture, à leurs connaissances, et qui banalisent finalement des faits qui peuvent être très violents. Et il n'y a pas d'étonnement à ce que les comportements changent. Ça, c'est un impact très visible à l'école, mais même dès la crèche, hein. Il y a un impact maintenant avéré sur la vision. Il y a beaucoup plus d'enfants qui naissent avec une myopie, parce qu'ils sont enfermés dans quatre murs, ils regardent un écran, alors que c'est extrêmement plus important pour le développement d'aller regarder l'horizon de la mer. Il y a des conséquences sur le poids des enfants, sur la santé globale, sur l'interaction avec les autres, la qualité du langage, et évidemment, à long terme, sur les apprentissages.
Nathalie Casso-Vicarini, il faudrait interdire tous les écrans jusqu'à 6 ans, ce que vous nous dites.
Alors, pas complètement. Même tout petit, quand on va voir la grand-mère qui est à distance, on fait un Zoom, un Skype, c'est extrêmement important pour l'enfant d'être en contact avec sa grand-mère. Il y a un petit dessin animé qu'on peut regarder, qui permet de baisser la tension après l'école. Mais il y a des temps qui sont importants à respecter. Et c'est ça qu'on regardera ensemble. Et un, les impacts. Deux, les ressources. Comment on peut aider les parents? C'est super compliqué hein, quand on est parent, d'être face à nos enfants qui sont parfois surexposés. Il y a des choses très simples à connaître. D'abord, quand on a compris les impacts, bah, c'est sûr qu'on va mettre en place des bonnes pratiques. Et c'est de ça dont on va parler tous ensemble le 13 à 20h30, parce que on sait la nocivité sur le développement des enfants jusqu'à 3 ans. Et après, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la fréquence, et ça dépend surtout du support et de savoir s'ils sont seuls, et évidemment de la qualité de ce qu'ils regardent. Et ça, c'est vraiment la responsabilité des parents, parce qu'il y a des enfants qui sont surexposés à des images violentes, à de la pornographie, des choses qui impactent massivement leur développement et qui peuvent les couper de leurs émotions et avoir un impact très très négatif sur leur comportement, leur développement et leurs apprentissages.
Et la psychologie, un cas pratique, un enfant de 3 ans, il peut ou elle peut regarder un écran pendant combien de temps et quel type de programme? Parce que c'est aussi ça entre en jeu.
Ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est zéro écran avant 3 ans. Parce que ça impacte la vision. L'œil est pas... En fait, la fabrication de l'œil se fait jusqu'à à peu près... de l'oreille, oui, et la vision se font tardivement dans l'enfance et que ça vient perturber en fait le développement et de l'audition et de la vision. Mais encore une fois, un écran, on regarde des photos de famille sur un iPad où on regarde, on est en Skype ou en Zoom avec les grands-parents à distance, c'est super important. On va pas priver l'enfant de ses moments de convivialité en famille.
Il faut faire la part des choses, quoi.
Ouais, en revanche, seul, devant un téléphone, on fait les courses, on est occupé, il y a la liste de courses, et l'enfant est pas très content. Il est pas très content puisqu'il a besoin d'attention, lui aussi. Un enfant, il se développe pas s'il a pas l'attention de ses proches. Eh bien, on va lui filer un téléphone portable. Bon, il faut regarder ce qu'on lui donne, combien de temps, et si on continue à s'intéresser à lui, si on reste en interaction avec lui, mais le moins possible, parce que c'est pas anodin. Voilà, on donne quelque chose à l'enfant qui en maîtrise la technique, mais il n'en maîtrise pas le contenu. Et ce qu'il reçoit, ça, c'est vraiment de la responsabilité des parents. C'est la qualité de ce qu'on leur montre. On peut leur montrer un petit dessin animé pendant 5 minutes, mais c'est pas une fin en soi. Voilà. Et c'est pas non plus un support d'apprentissage. C'est ce que nous dit la recherche scientifique. On a pensé que aborder des apprentissages au travers d'un écran, ça permettait aux enfants de travailler de façon ludique. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est intéressant si c'est un support parmi d'autres. Il y a ce que dit le professeur des écoles, il y a ce que disent les parents, il y a les livres, il y a la grande importance des livres, il y a ce qu'on apprend avec les copains, tout ce qu'on expérimente soi-même en faisant des essais-erreurs dans l'enfance, Et puis, il y a l'écran qui peut éventuellement faire un petit jeu sur une question de mathématiques, mais c'est un support parmi d'autres, parce que l'écran seul, on le voit dans les études scientifiques, ne permet pas des apprentissages sur le long terme.
Nathalie Cassot-Vicarini, on vous écoute et on peut comprendre que les écrans, ça peut être bien, mais accompagné d'un adulte.
Ouais, exactement. Parce que l'enfant, il se développe dans le regard de l'autre. Un bébé tout seul, il n'existe pas. Un enfant tout seul, s'il n'a pas ses parents à côté de lui, qui lui parlent, qui interagissent avec lui, il ne peut pas se développer tout seul. Hein, on connaît l'histoire de l'enfant sauvage. Bah, il n'a jamais réussi à développer son intelligence parce qu'il a été tout seul trop longtemps dans la forêt. Bon, bah, heureusement, c'est pas le cas, les vieux. Nul. Et puis, a priori, c'est plus trop le cas. Mais l'enfant, il apprend avec le regard de l'autre, l'attention de l'autre, l'affection de l'autre, l'attachement des autres. Il apprend parce qu'il a confiance en les autres. À l'école, bah, on apprend très très bien avec un professeur des écoles qui est passionné, parce qu'il va vous transmettre encore autre chose que la simple matière qu'il partage avec l'enfant. Si lui-même est passionné, bah, l'enfant, il va adorer la matière.
Vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Ces impacts sont-ils les mêmes sur un enfant regardant un programme sur une grande télé, une tablette ou un smartphone, car l'immersion n'est pas la même?
Oui, l'impact est très différent. Je parlais de la télévision tout à l'heure. 80% des enfants préfèrent ce mode-là parce qu'ils sont avec papa, maman, la famille, les frères et les sœurs devant la télévision. Et que quand ils regardent quelque chose, ben, on partage des émotions, on peut discuter en même temps. Alors que une tablette seule dans sa chambre, un, il y a le risque de regarder quelque chose qui est vraiment pas du tout adapté à l'enfant. Et puis, il n'est pas dans l'interaction avec l'autre. Un enfant, comme on disait tout à l'heure, il ne se développe que s'il est en interaction avec les autres. Voilà, donc il y a la nocivité du contact, enfin du contenu, et puis il y a l'impact dû au fait qu'il n'est pas dans la relation, il ne peut pas en discuter, sa maman, j'ai eu peur, ça. Après, il ne faut pas s'étonner des cauchemars, des terreurs nocturnes qui vont affecter évidemment le comportement et la qualité du sommeil.
Comme on le disait tout à l'heure, toujours accompagner un enfant.
Oui, exactement.
Dans toutes les tâches de sa vie, quoi, en gros.
Ouais, tout à fait. Et puis après, il y a des degrés. Hein. On va pas s'y prendre de la même manière. Bah, les parents, on s'adapte. Hein. C'est très très difficile d'être parent d'ailleurs, mais voilà, on apprend à s'adapter. On va pas avoir la même attitude avec un bébé, avec un enfant de moins de 3 ans, avec un enfant de moins de 6 ans, puis 8 ans, et puis après les ados. À chaque âge, c'est message. C'est vraiment important.
C'est vraiment important, mais c'est pas simple. En tant que parent ou grand-parent d'ailleurs.
Simple du tout. Ah, ça, je vous le confirme. C'est même très, très difficile. Mais on sait que un bébé surexposé, il y a eu plusieurs cas de bébés dans le monde entier, hein, complètement addicts aux écrans, tout petits, hein, de 15 jours à un mois de sevrage, les bébés retrouvent complètement leur cerveau qui est extrêmement malléable à cet âge-là, retrouve toutes ses facultés. Ils retrouvent l'interaction avec les autres, alors qu'ils étaient, c'était des bébés qui étaient complètement...
Lobotomisés.
Oh, quasiment.
Et ça peut être une drogue pour ce jeune public?
Oui, en fait, c'est une drogue. On voit aujourd'hui dans les études scientifiques internationales que ça active le circuit de la récompense, le circuit du plaisir dans le cerveau. Donc c'est ça veut dire que c'est addictif au même titre que de l'alcool, la fumette et je ne sais quoi d'autre. Voilà. C'est à partir du moment où ça active le circuit du plaisir dans le cerveau et que on ne peut plus maîtriser. Il y a un moment, l'enfant il maîtrise pas, surtout quand il est tout petit, il n'est pas équipé pour maîtriser sa régulation avec l'écran. Eh bien, c'est considéré comme une addiction, donc avec une drogue en face de nous.
Ce que vous nous disiez tout à l'heure, ils maîtrisent la technique, mais pas ce qu'ils regardent.
Exactement, tout à fait. Et ce qu'ils regardent, ça c'est la régulation des parents. Ça veut dire qu'un écran dans la chambre de l'enfant, ben, c'est encore plus compliqué en fait. Ça complexifie le rôle des parents parce que l'enfant va plus comprendre pourquoi on lui enlève et pourquoi il peut pas choisir ce qu'il va regarder dessus.
Donc les tablettes, le téléphone, le wifi, la télé, dans une chambre, c'est non.
Oui, c'est non, c'est sûr, surtout pour les ados. Ouais.
Surtout pour les ados. Donc ados, c'est 12-14 ans, quoi.
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, bon, et encore une fois, hein, je vous rejoins, c'est super difficile. Mais quand on arrive à la maison, on pose les parents comme les enfants, parce que c'est les parents qui sont les modèles des enfants. Les enfants ont confiance en leurs parents. C'est eux qui les ont élevés, ils les ont portés dans leur ventre, dans le ventre des mamans, et forcément, ils ont confiance en leurs parents, c'est leur premier modèle. Hein. Même si les ados le disent pas comme ça, hein, les parents sont les premiers modèles de leurs enfants. Donc si eux-mêmes sont tout le temps sur les écrans ou que la télé est ouverte en permanence dans la journée ou qu'on on regarde toutes les 3 minutes son téléphone pour voir s'il y a des messages qui arrivent, eh bien forcément, on active les neurones miroirs dans le cerveau et les enfants se mettent sur la même longueur d'onde que leurs parents et font la même chose. C'est automatique. Hein. Donc il y a déjà une régulation qui est très difficile. Hein. Nous, en tant que parents, on se dit... Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus important là? Mon enfant, il rentre de l'école. Est-ce que c'est de lui parler, de faire un petit goûter ensemble et d'échanger sur sa journée? Ou est-ce que c'est de vérifier nos mails à ce moment-là et de regarder les messages qu'on a pu recevoir? C'est une question de priorité, c'est une question de santé publique. Hein. Et c'est compliqué parce que l'invasion s'est faite très vite. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une technologie nous envahit comme ça sans qu'on ait les clés pour la réguler. Donc, on a besoin d'en parler. Voilà, on a besoin d'en parler, de se confier nos difficultés. Et on est tous logés à la même enseigne. Hein,
Durant la conférence du jeudi 13 octobre à 20h30 au casino sur l'Île-Dieu, allez-vous donner des astuces afin que cette interdiction ne soit pas une source de frustration ou bien de colère?
Ah, c'est vraiment le défi. D'abord, c'est pas vraiment une conférence, c'est un échange. Hein. C'est un débat autour de grandir à l'ombre des écrans. On voit déjà qu'il y a un mot qui est pas cool, hein, c'est l'ombre. L'ombre, c'est un vrai défi. On va partager déjà des connaissances ensemble. On va essayer d'échanger sur nos difficultés du quotidien, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Et puis, on va partager des ressources. Il y a des choses toutes simples qu'on peut partager qui vont vraiment aider le quotidien des parents.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Par exemple, la règle des 4 pas.
La règle des 4 pas, expliquez-nous.
Ouais, alors la règle des 4 pas, c'est un trèfle en 4 parties. La première partie du trèfle, c'est pas d'écran dans la chambre. Les enfants, pas d'écran le matin parce que on va capter l'attention de l'enfant et quand il va arriver à l'école, il sera déjà un peu fatigué par l'attention qu'il aura consacrée à l'écran. Pas d'écran pendant les repas parce que je vous passerai une petite vidéo super intéressante qui montre que quand un enfant est capté par la télévision, par exemple, pendant le repas, c'est difficile, hein, parce que on a nous aussi été élevés comme ça, donc on a tendance à reproduire la même chose. Eh bien, s'il est très intéressé par ce qu'il regarde, il va pas savoir ce qu'il mange. Donc, il peut engloutir beaucoup de nourriture ou pas suffisamment par rapport à son développement. Et l'hormone qui dit au cerveau, ça y est, je suis à satiété, j'ai plus besoin de manger, n'intervient pas parce que l'enfant est capté par ce qu'il regarde à la télévision. Donc il y a des phénomènes de surpoids ou au contraire d'enfants qui ne mangent pas suffisamment parce que ou pas bien, hein, pas en qualité ou en quantité, parce que ils sont captés par l'écran. Et puis le cinquième pas, c'est pas le soir avant de s'endormir parce que la lumière bleue donne un signal au cerveau qu'il faut rester éveillé. C'est la lumière bleue de l'écran, notamment sur les tablettes. Et le cerveau entend le message et du coup, il se réveille, il est tout guilleret et il n'a plus du tout envie de dormir.
Avant de dormir, vaut mieux lire ce que vous nous dites.
Le papier, jusqu'à présent, n'aimait pas de lumière bleue. Donc oui, un petit livre... Un petit jouet pas surstimulant, c'est évidemment un bon repère avant de s'endormir.
Grandir à l'ombre des écrans, c'est le thème de la conférence animée par Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Cette soirée aura lieu le jeudi 13 octobre à 20h30 au Casino Sur-Île-Dieu. Merci beaucoup de toutes ces informations, c'était passionnant.
Merci à vous et puis tout le monde est invité, hein. Les grands, les petits.